vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Un nouveau projet de terminal gazier pourrait voir le jour à Baie-Comeau. La compagnie Marinvest Énergie propose la construction d'un pipeline de plus de 1000 km afin d'acheminer cette énergie fossile de l'Ouest canadien sur la côte nord en passant par le territoire québécois. Pour cela, la construction d'un gazoduc traversera donc les milieux écologiques et des cours d'eau sensibles afin de rejoindre une usine de liquéfaction et un terminal flottant d'exportation de ce gaz de schiste vers les États-Unis, l'Asie et l'Europe. Une lettre ouverte signée par 46 économistes dans la presse dénonçait récemment la non-rentabilité d'un tel projet, car sa construction coûterait au moins 30 milliards de dollars, soit l'équivalent de 4 complexes La Romaine. Les experts soutiennent qu'en plus de tourner le dos à la transition énergétique, cela serait donc peu rentable dans la conjoncture actuelle et que nous devrions en limiter le financement public. Alors, 4 ans après le défunt GNL Québec, verrons-nous la construction d'un autre pipeline au Québec? Nous en parlons tout de suite, ne bougez pas. Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous voulons vous parler d'un possible projet de gazoduc, celui de la compagnie Marinvest Energy, très ressemblant à GNL Québec, qui avait été dénoncé par l'ensemble des groupes environnementaux et près de 650 scientifiques. J'en parle avec Louis Couillard, responsable de la campagne climat-énergie chez Greenpeace Canada. Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie de François L'Italien, directeur adjoint de l'IREC, l'Institut de recherche en économie contemporaine et professeur associé au département de sociologie à l'Université Laval. Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi avec Anne-Céline Billon, analyste climat-énergie chez Nature Québec. Bonjour aussi.
Bonjour.
Donc, le passé ressurgit avec un projet de liquéfaction de gaz, cette fois à Baie-Comeau, sur la côte nord. Ce futur projet mené par la compagnie norvégienne Marinvest Energy promet la construction d'un gazoduc de plusieurs centaines de kilomètres sur le territoire québécois pour y acheminer le gaz de l'ouest du pays, une usine de traitement et un terminal flottant pour exporter cette énergie fossile par méthanier. Rappelons que les engagements climatiques du Canada et du Québec vont plutôt dans le sens inverse d'une hausse de production de gaz canadien, donc une baisse idéalement, et celui-ci semble être destiné à l'exportation, donc aux besoins d'ailleurs plutôt que nos propres besoins d'énergie. Je vais commencer avec vous, Monsieur Couillard. Pourquoi pense-t-on qu'un tel projet pourrait voir le jour alors que le précédent n'avait pas obtenu l'assentiment de la population?
C'est une très bonne question. C'est la question que je me pose tous les jours en me levant. Qui pense que ce projet-là est sérieux et a un avenir au Canada et au Québec et dans le monde dans lequel on vit en 2026? Il y a certainement des gens qui pensent que c'est un projet qui serait durable et qui serait bénéfique. De notre côté, chez Greenpeace, on pense que ça n'a absolument aucun bon sens de parler en 2026 d'un projet d'énergie fossile comme celui de Marinvest Energy. Pour tout un paquet de raisons qu'on pourra discuter aujourd'hui, mais fondamentalement, d'un point de vue réchauffement climatique, transition énergétique, ce n'est pas des projets en 2026 qui ont leur place, selon nous, des projets d'énergie fossile, mais aussi d'un point de vue purement rationnel, qu'est-ce que le Québec a à gagner dans un projet de construction de pipeline, d'exportation de GNL, quand on voit que tous les indicateurs économiques nous disent que le bateau est passé au Québec pour ce genre de projet-là. On a fait le débat pendant plusieurs années, que c'est conclu en 2021. J'ai l'impression de rejouer dans un mauvais film. Sérieusement, je me pose la question, qui trouve que ce projet-là est sérieux? Certainement plusieurs de nos politiciens qui continuent de le vanter sur la place publique, malgré qu'il n'y ait toujours aucune information qui soit disponible publiquement, ni sur un site web gouvernemental, ni sur le site web de l'entreprise. On se rappelle que l'ensemble des informations qu'on connaît de ce projet-là proviennent de recherches par des journalistes et par des organisations comme la nôtre qui ont fait des demandes d'accès à l'information. Et c'est comme ça qu'on obtient au compte-gouttes des informations sur un projet qui nous semble si peu sérieux, mais pourtant, l'entreprise Marinvest a la clé des plus hautes sphères du pouvoir, notamment Premier ministre Carney, M. Legault, ils ont pu les rencontrer dans les dernières années. Ça nous surprend. Mm-hmm. On ne comprend pas.
Ben, c'est ça. Il y a un contexte politique qui a changé tout à fait. Souvenez-vous, nous avions parlé à cette antenne de GNL Québec Énergie Saguenay, un projet d'usine de liquéfaction de gaz naturel, donc mis de côté en 2022 par manque d'acceptation sociale. En quoi ce nouveau projet ressemble à l'ancien, Mme Guyon?
Ben, écoutez, c'est vraiment le même type de complexe gazier, c'est-à-dire que c'est la construction d'un gazoduc sur le territoire du Québec, donc qui irait vraiment de la frontière avec l'Ontario jusqu'effectivement Baie-Comeau, hein, par un tracé plutôt qui passerait au nord, en fait, si vous voulez, du lac Saint-Jean, entre si vous voulez, Chibougamau puis le nord du lac Saint-Jean. Donc à peu près 1000 km quand même de tracé de gazoduc. Puis aussi effectivement une usine de liquéfaction de gaz, hein, parce que ce gaz, quand il arrive à l'usine, ben, il faut qu'il soit liquéfié pour être transbordé sur des méthaniers, puis après envoyé sur les marchés européens. Donc c'est vraiment le même type de complexe que proposé à l'époque par GNL Québec. Le seul élément qui semble s'ajouter dans ce projet-là, ce serait que la compagnie envisage apparemment de construire aussi son propre parc éolien pour alimenter une partie de l'usine de liquéfaction par de l'électricité issue donc de l'énergie éolienne. Mais sinon, c'est sensiblement le même type de projet. Là. Puis on pense, en tout cas, de ce qui ressort des données à l'heure actuelle, ce serait possiblement le même nombre aussi de tonnes de GNL produits par année, donc à peu près 10 millions par année.
Oui, donc ça se ressemble beaucoup. Loin d'être une initiative donc de transition énergétique, ce projet rencontre une opposition du côté des scientifiques en environnement et des écologistes, mais aussi de la part de chercheurs en économie. Monsieur l'Italien, vous avez signé une lettre dans la presse pour dénoncer ce projet. Expliquez-nous.
Bien, en fait, pour les raisons que mes collègues viennent d'expliquer, ce projet-là n'a aucune assise économique solide. Ce qu'on constate, c'est que selon nos estimations, on serait face à un projet d'autour de 30 milliards de dollars avec aucun investisseur privé sur les blocs de départ, ce qui signifie donc que ce serait le gouvernement canadien et des investisseurs dans son périmètre qui seraient mobilisés. Et donc que les citoyens québécois et canadiens dépenseraient un peu comme le pipeline Trans Mountain Energy dans l'Ouest canadien, qui est devenu une infrastructure publique qui a été nationalisée par le gouvernement fédéral et qui donc représente un important passif pour les finances publiques, mais aussi un passif écologique parce que, comme l'ont dit mes collègues, c'est contraire à nos cibles écologiques en termes de lutte au changement climatique. Donc, pour cette raison-là, principalement. Ensuite de ça, pour le Québec, il n'y a absolument aucun avantage économique structurant. On parle d'une période de construction d'un ou deux ans pour le pipeline. La construction du terminal flottant qui dure probablement autant de temps. Mm-hmm. Donc, peut-être quelques centaines d'emplois, mais tout au plus, lors de la période d'opération, c'est de la maintenance, de la surveillance. Aucune redevance claire. Donc, on serait le territoire sur lequel cette infrastructure-là passerait pour des fins d'exportation. Donc, sur le strict plan économique, là, je mets de côté la question écologique, mm-hmm. sur le strict plan économique, là, ce projet-là n'a pas d'assise économique solide.
Oui. Est-ce que vous pensez qu'on risquerait de s'endetter pour financer un tel projet, c'est ça?
Bien, la tendance est à l'effet de mobiliser des institutions comme la Caisse de dépôt de placement qui sont dans le périmètre public, là, disons-le comme ça, pour soulager l'endettement des gouvernements. Donc, par exemple, dans le cas du REM à Montréal, ça a été le cas. Là, c'est une infrastructure qui a été financée et qui est opérée par la Caisse de dépôt. Ce qu'on constate, c'est que le Canada a pris des notes et a bien vu les occasions que représente ces investisseurs publics-là pour faire partie du montage financier. Donc, on peut penser que le Bureau des grands projets, là, qui semble être le coordonnateur jusqu'à présent de ce projet-là, là, en tout cas de ce fantôme de projet-là, parce qu'on n'en sait pas grand-chose, pourrait être intéressé à solliciter des investisseurs publics comme la Caisse de dépôt ou d'autres investisseurs similaires au Canada.
Oui, c'est vrai. Monsieur Couillard, rappelez-nous comment on a appris que la compagnie Marine Best Energy souhaitait se lancer dans un tel projet.
La petite histoire, c'est que je me suis levé en plein milieu de la nuit pour changer la couche de ma fille, puis j'ai comme eu une anxiété. Quand j'entendais, j'étais en congé de paternité quand M. Poilievre...
C'était à quel moment?
En février 2025, M. Poilievre commençait à parler sur la place publique, alors qu'il était en avance dans les sondages à l'époque, on se rappelle. Tout a changé assez rapidement depuis. Et M. Poilievre parlait d'un retour du projet GNL Québec, un retour potentiel, puis il parlait de ses bénéfices. Puis je me disais, ça ne peut pas sortir de nulle part. Pourquoi on est encore en 2025 à nous parler de GNL Québec, un projet que le gouvernement du Québec a rejeté très clairement en 2021? Là, on est 4 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Je suis retourné au travail après mon congé de paternité et puis j'ai commencé à faire des recherches, notamment sur Carrefour Lobby Québec, donc le registre des lobbyistes du Québec. J'ai fait la même chose du côté canadien et puis j'ai fini par tomber sur Marinvest Energy, une entreprise norvégienne qui présentait à nos politiciens et aux politiciens les plus haut placés du pays notamment, un projet structurant pour l'avenir énergétique du Canada et du Québec. C'est comme ça qu'il se décrivait. Donc, nulle part mention de gaz, nulle part mention de GNL, quoi que ce soit. Mais c'était comme ça que le projet était présenté. Et puis, par la suite, j'ai fait des demandes d'accès à l'information.
Oui.
Et j'ai réussi à mettre le puzzle, du moins à mettre des morceaux du casse-tête en place. Il m'en manquait quelques-uns. J'ai travaillé en collaboration avec différents journalistes. Et puis, finalement, ça a donné un article, notamment dans Le Devoir, de M. Alexandre Shields, qui est sorti pour au grand jour pour parler de ce méga projet-là de GNL Québec qui serait en cours d'élaboration en coulisses. Et puis,
On n'en sait pas beaucoup. Hein?
On n'en sait pas beaucoup, mais tout ce qu'on sait, on l'a par soit des demandes d'accès à l'information, soit la compagnie qui a répondu à des questions des journalistes, et puis finalement, les politiciens qui ont aussi répondu à des questions. Pourtant, nos politiciens continuent de soutenir qu'ils n'ont pas de projet, qu'ils n'ont pas vu le projet, mais on sait très bien que le gouvernement canadien, par exemple, avance avec ça. Ont une présentation de plus de 20 pages du projet. De notre côté, on l'a reçu, cette présentation-là, mais elle est 100% caviardée. Donc, on en sait très peu, mais on en sait assez pour savoir que ça ressemble en tout point, comme mes collègues l'ont dit, au défunt projet GNL Québec, et qu'en 2026, pour maintenir une planète viable puis pour un avenir prospère pour le Québec, ces projets-là n'ont pas leur place.
Oui, Madame Guillon, oui?
Oui, ben, si je peux renchérir un peu sur ce que Louis a dit, je pense qu'il faut comprendre aussi quelque chose, là, c'est que Marinvest Energy travaille en ce moment auprès, effectivement, des gouvernements, à la fois provincial et fédéral. On sait aussi qu'il travaille auprès de certaines communautés autochtones. Et leur but, c'est d'être désigné dans l'intérêt national dans le cadre de la loi C5 du fédéral. Or, cette loi C5-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que pour être désigné dans l'intérêt national, il faut effectivement, un grand argument, c'est d'être fait en partenariat avec des communautés autochtones. Mais l'autre élément, c'est qu'ils n'ont pas véritablement besoin de rendre leur projet public. L'étape de désignation se fait totalement au niveau politique. Et c'est là aussi où c'est problématique, parce qu'après, une fois désigné, les processus sont accélérés. L'industrie pétrolière et gazière s'en sert pour pousser absolument de nouveaux projets de pipeline, que ce soit de sable bitumineux ou effectivement de gaz, pour abaisser le plus possible les normes environnementales. On a vu aussi l'Alberta en profiter pour passer une entente particulière avec le gouvernement fédéral pour venir justement comme repousser plusieurs applications de loi, notamment d'ailleurs la loi qui devrait normalement faire en sorte que toutes les provinces doivent réduire leurs émissions de méthane de 75% d'ici 2030. Or, l'entente avec l'Alberta repousse cette échéance à 2035. Toutes les lois qui venaient encadrer normalement la pollution du secteur pétrolier et gazière a pris bord. On sait que le plafonnement sur les émissions du secteur pétrolier et gazier aussi a été annulé par le gouvernement de M. Carney, etc. Donc, pour le moment, ce qu'on constate, c'est que le gouvernement fédéral répond donc à l'industrie pétrolière et gazière sous prétexte qu'il faut trouver de nouveaux marchés pour moins dépendre du marché américain. Mais ce qu'on nous dépasse, c'est que la plupart déjà des entreprises qui investissent dans ces projets-là sont américaines. Puis l'autre élément, c'est que, ben, tu sais, encore une fois, les prix vont peut-être augmenter pour les investissements, mais au bout du compte, c'est le consommateur qui va payer plus cher. Mm-hmm. Donc, tu sais, quand on parle des ménages, quand on parle, on le voit déjà avec le prix de l'essence, oui, ce sera pareil avec le prix du gaz. Mais la meilleure façon de se départir de ça, c'est au contraire de sortir des énergies fossiles.
Oui, j'entends. Monsieur l'Italien, oui.
Oui, je voulais rebondir là-dessus. Il y a un constat, je pense, il me semble qu'on tarde à faire. Surtout au Québec, sur l'évolution récente du gouvernement libéral. Vous savez, au Québec, on a quand même beaucoup misé sur les politiques qu'ont apporté le gouvernement Trudeau, puis l'écologisme, très réformiste, mais quand même de Stephen Guilbeault. Puis donc, on a vu quand même un gouvernement du Parti libéral de Trudeau qui tentait d'établir un autre discours, puis voir quelques autres politiques pour faire dévier la trajectoire canadienne hors des énergies fossiles. Puis ce qu'on constate depuis Trump, puis je suis assez d'accord avec ma collègue que la crise a radicalisé ça, c'est un consensus de l'élite économique et financière canadienne autour des énergies fossiles. Il n'y a plus de contre-discours au sein du Canada, je parle des élites, là, concernant la trajectoire énergétique canadienne. Il y a un ralliement massif, ordonné, solidaire entre les élites autour de cette trajectoire-là. Ce qui est d'autant plus troublant, je vous dirais, c'est que Mark Carney, qui a été pendant plusieurs années représentant de la finance durable sur plusieurs tribunes internationales en vantant le rôle que les investisseurs institutionnels pourraient jouer dans la transition, s'est rallié sans problème à cette convergence-là. Quand on est dans un pétro-État qui a décidé de faire corps avec la forteresse Amérique autour de la sécurité énergétique des énergies fossiles, ben on peut plus s'attendre. Évidemment, on peut se cantonner dans une position défensive au Québec face à ce pétro-État-là, mais on peut aussi dire qu'on peut prendre une autre direction énergétique à partir de notre capacité à nous gouverner nous-mêmes. Et là, je le vois pas vraiment. Vous voyez, c'est comme si on contestait encore le rôle que le gouvernement libéral joue en ce moment, tout en ne tirant pas toutes les conclusions qui s'imposent cette convergence-là.
Il y a un effet Trump, il y a un effet aussi géopolitique, il y a aussi il y a des conflits et qu'on est incertain, finalement, on préfère le statu quo et rester sur... Parce qu'on est producteur d'énergie fossile, il ne faut pas se le cacher. Monsieur Couillard?
L'Ouest canadien est producteur, pas le Québec.
Oui, c'est vrai. Merci de la nuance. Monsieur Couillard, quelles seraient les conséquences d'un tel projet? Là, c'est sûr qu'on pense socialement aux communautés autochtones, environnementales. Oui, c'est quoi les conséquences de ça?
Il y a énormément d'impact sur ce genre de projet-là. Puis, c'est aussi à préciser que dans les demandes d'accès à l'information que j'ai fait, une des plus récentes à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, j'ai trouvé fascinant la phrase que l'Agence d'évaluation d'impact avait utilisée pour décrire le projet. Je paraphrase parce que c'était en anglais, mais c'était un projet d'expansion d'énergie fossile qui cherche à trouver des nouveaux débouchés pour le gaz naturel canadien. Donc, quand le projet va nous être présenté plus formellement au Québec, puis ça a déjà commencé par l'entreprise de certains de nos politiciens là, qui disent de ne pas avoir vu le projet, mais qui commencent à le vanter. Je pense notamment à Bernard Drainville, dans le cadre de la course à la chefferie de la CAQ, qui a commencé à parler positivement du projet, qu'il n'a pourtant pas vu. On va nous présenter ce projet-là comme un projet pour le Québec, avec des opportunités pour le Québec, mais la réalité, c'est que les profits se feront ailleurs et les coûts et plusieurs des coûts et les impacts se feront ici, au Québec. Premièrement, la fracturation hydraulique. Ça va se passer dans l'Ouest canadien, mais c'est un procédé qui est illégal au Québec présentement. C'est pas pour rien que c'est illégal. Oui, sur les conséquences que le gaz naturel et son exploitation et sa consommation ont sur le réchauffement climatique, mais aussi dans le cadre de sa phase d'exploitation. La fracturation hydraulique, c'est énormément dommageable pour la santé des communautés qui vivent à proximité de ces sites-là. Ça, c'est un très grand impact. Après, d'un point de vue réchauffement climatique, le gaz naturel liquéfié, puis le volume que Marinvest espère exporter, c'est des quantités absolument astronomiques. On parle de millions de tonnes de gaz naturel qu'on veut exporter. Mais quand on le brûle, ça a un gros impact sur le réchauffement climatique. Mais également, tout le long de son cycle de vie, les projets de GNL, de gaz naturel liquéfié, ont des gros impacts sur le réchauffement climatique parce que le gaz naturel liquéfié, c'est quoi? C'est du méthane. Et même si l'industrie se vante d'avoir des technologies de plus en plus innovantes qui permettent de réduire au plus possible les fuites, le gaz, ça fait quoi? Quand il y a une fuite, ça monte dans les airs. Mm-hmm. Et le méthane, ça a un potentiel de réchauffement extrêmement élevé. On parle de plus de 80 fois l'impact. Le méthane, c'est plus de 80 fois l'impact du CO2 sur le réchauffement climatique. Donc, grosso modo, c'est un projet qui, quand on le regarde dans l'ensemble de son cycle de vie, va avoir des impacts terribles sur le réchauffement climatique. Oui. Puis finalement, un projet de ce type-là a également des impacts sur la biodiversité, sur les communautés.
C'est qui vivent là.
Moi, oui. Je pense à Janelle Québec et les gens au Saguenay avec qui j'ai étroitement collaboré dans les dernières années et à quel point ils vivent encore aujourd'hui la fracture sociale qui a été créée par ce genre de projet-là, parce que ça divise. On présente un projet, on présente des opportunités et ça divise les communautés. Je pense aux gens de Bécomo aussi que j'ai rencontrés en septembre, notamment avec Anne-Céline, on a répondu à une invitation pour venir parler du projet à des citoyens et des citoyennes qui étaient complètement dépourvus d'informations. Mm-hmm. On est allé donner certaines réponses avec des experts dans différents domaines. Ouais. Et puis, déjà, le débat
était là. Madame Guyon, justement, les gens accueillent ça comment et quels sont les risques qu'ils voient justement pour leur environnement, pour leur territoire?
Ben, écoutez, les gens sont inquiets. Nous, effectivement, comme vous le disiez, on est allé à Bécomo, on a rencontré une partie de la population et pour vous donner un ordre d'idée, c'était une séance d'information publique qui devait durer 1h30. Au final, ça a duré 3h. La séance de questions en tant que telle a duré plus d'1h30. Les gens étaient comme, tu sais, très, très inquiets et voulaient comprendre. Et déjà, comme vous le disiez tout à l'heure, pourquoi un tel projet revient alors qu'on a déjà tant dit non au Québec sur ce type de projet-là? Puis est-ce que les technologies ont évolué? Est-ce que ça fait en sorte que ce projet-là serait moins dommageable qu'il y a 5 ans ou 10 ans? Puis dans les faits, non. Mon collègue parlait des émissions de méthane. Maintenant, on a des nouvelles technologies pour aussi observer ces émissions de méthane-là, notamment satellitaires. Et toutes les technologies, tous les résultats qu'on a en ce moment nous montrent que les émissions sont la plupart du temps sous-estimées par rapport à leur valeur réelle. Donc ça, ça reste un fait, c'est extrêmement problématique. Puis l'autre élément, ben, c'est au niveau justement territoire, au niveau de la biodiversité. Ben, là, on nous parle d'une usine flottante en plein milieu de la baie des Anglais à Bécomo. Il faut savoir que c'est une baie où notamment il y a pas mal d'activités récréotouristiques, beaucoup de kayak qui se fait, d'observation d'oiseaux, etc. Donc les gens se disent, mais comment ça on envisage de nous mettre une usine de liquéfaction juste au milieu en plein milieu de cette baie-là. C'est aussi évidemment, qui dit méthanier dit augmentation du trafic maritime avec tout l'impact que ça peut avoir sur les mammifères marins. De nouvelles espèces exotiques envahissantes qui pourraient arriver à cause des eaux de ballast, notamment de ces méthaniers-là.
Les risques se démultiplient finalement.
Le gazoduc aussi, c'est quand même une emprise de 60 mètres de large sur lesquels complètement déforestée, sur lesquels plus aucun arbre ne peut pousser. Donc c'est aussi de la fragmentation d'habitats incroyable. Puis le pipeline traverserait, en fait, littéralement coupé en deux le Québec à ce niveau-là. Puis quand on arrive dans la région de Bécomo, mais un peu plus au nord, ben il se trouve que le tracé potentiel qu'on a pour le moment nous dit qu'on passerait aussi au sud de la zone de répartition du caribou forestier, une espèce dont c'est extrêmement problématique au Québec à l'heure actuelle, où on attend toujours la stratégie caribou, ça va faire 10 ans, on l'a toujours pas. Donc vous voyez, il y a des enjeux énormes.
Oui. Monsieur l'Italien, je vais terminer avec vous. Quelles seraient les conséquences du point de vue économique d'un tel projet de Marine Bass Energy si il voit le jour?
Bien, sur le plan des finances publiques, évidemment, je l'ai mentionné, c'est qu'on va transférer une partie de l'endettement qui serait lié à l'investissement du gouvernement canadien dans ce projet-là, puisqu'il n'y a pas d'investisseurs qui sont intéressés. Puis de manière plus structurante, là, comme le dit le gouvernement canadien, ben c'est que ça enfonce la trajectoire fossile du Canada encore davantage pour encore plus d'années, parce que des infrastructures comme celle-là, on doit d'abord les rentabiliser. Elles sont des ce sont des espèces de nœuds où là, il y a des fournisseurs, il y a toute une industrie qui va dépendre de cette infrastructure-là. Et donc, il va y avoir c'est comme un patron énergétique qu'on continue de consolider, de développer, au détriment de d'autres formes d'énergie ou d'alternatives qui seraient pas celles des énergies fossiles. Puis j'en profiterai aussi pour dire que pour le Québec, ce que ça signifie aussi, c'est que ben on accepte que sur le territoire québécois, il se déploie un système énergétique intégré avec lequel le Québec n'a justement presque rien à voir. Ouais. C'est-à-dire, il se trouve que de manière accidentelle, le Québec soit à l'est de l'Ouest canadien, puis que ça soit le seul endroit, le seul débouché pour le transit qui est identifié par le gouvernement fédéral et ce conglomérat d'acteurs énergétiques là, mais c'est tout. Je veux dire, on est le territoire sur lequel cette infrastructure là va se déployer sans qu'on, au fond, on y soit impliqué de près ou de loin. Donc, je dirais ces trois niveaux là. Donc sur le plan budgétaire, sur le plan de la trajectoire énergétique canadienne, à laquelle au Québec on continue quand même de contribuer par nos taxes et impôts, puis aussi parce qu'on accepterait, ou en tout cas à tout le moins on se verrait imposer une infrastructure d'une certaine manière étrangère à nos intérêts et à nos choix de société sur notre territoire.
Oui,
donc ce serait trois grands effets économiques pour le Québec.
Entendu. Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de François L'Italien, directeur adjoint de l'IREC et professeur associé au département de sociologie à l'Université Laval, d'Anne-Céline Guyon, analyste climat-énergie chez Nature Québec, et de Louis Couillard, responsable de la campagne climat-énergie chez Greenpeace Canada. Merci.
Merci.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science. C'est une production de Science Presse avec Radio-VM. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, cette semaine, Fanny Robartcher. La réalisation et le micro, comme toujours, Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Vous pouvez aussi suivre la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très très belle semaine à notre antenne.
Jing Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique.